When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2011 et c'est l'épisode numéro 60. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 60. Déjà, comme le temps passe, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous allons parler de Sony, de problèmes de sécurité sur Internet, de Spotify, d'Amazon et j'ai toute une liste énorme de petites histoires supplémentaires que nous allons évoquer avec mes deux formidables co-animateurs, Jeff et Yann. Comment allez-vous, messieurs ?
Ben écoute, très très bien, hein. Ça fait toujours plaisir d'être sur le Rendez-vous Tech. Et coucou à la chatroom aussi, et puis j'espère que l'épisode va vous plaire.
Eh ben écoute, ça fait toujours plaisir de t'avoir, Mister Yann, et coucou à la chatroom effectivement. Jeff, tu vas bien aussi ?
Ça va bien, je viens juste de voir qu'on avait parlé du mariage royal dans l'épisode, donc je pense que je ne vais pas avoir grand chose à dire parce que je ne l'ai même pas regardé. Bonjour à toutes.
C'est pas obligatoire, hein. Ça fait partie des sujets dont je ne suis pas certain qu'on va...
On fait du people.
Écoute, il faut parler de ce que veulent les foules, et le mariage royal en fait partie. Je sens qu'il y a les voix de 1000 geeks qui se sont élevés en même temps depuis en écoutant leur iPod. Ils se sont dit « Non, pas le mariage !» Et les voix de 1000 geekettes qui ont dit « Oui, le mariage !» Mais vous savez quoi ? On va commencer par autre chose, un problème beaucoup plus important qui est celui de Sony, dont on avait parlé la dernière fois dans l'épisode avec Cédric il y a 2 semaines. Et quand on en a parlé, nous deux, nous avions des opinions un petit peu divergentes et certains d'entre vous nous ont fait savoir qu'ils avaient d'autres opinions aussi sur le blog. C'était assez intéressant à entendre, mais aucun d'entre nous ne pouvait se douter que 15 jours plus tard, le problème ne serait toujours pas résolu. Et il se trouve qu'il n'est toujours pas résolu. Enfin, c'était une dizaine de jours, on va dire. Mais en gros, ça fait 2 semaines, un peu plus, que le PSN, le système, enfin le réseau de jeux en ligne, est totalement désactivé chez Sony. Et c'est une histoire qui va de mal en pis pour Sony, parce que au départ c'était uniquement le PSN, on savait pas trop ce qui s'était passé. Ensuite ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi leur réseau Sony, comment il s'appelle,
Curiosity.
Je veux pas dire. Pardon ?
Curiosity,
mais il y a aussi leur service qui
leur service MMO utilise. Là.
Voilà, exactement. Je crois que c'est Sony Online Entertainment. Voilà, c'est SOE. SOE. Et donc, ce service a été attaqué aussi. Et ils avaient annoncé il y a une semaine environ qu'ils allaient ramener le service à la fin de cette semaine qui vient de s'écouler. Et il n'a pas été ramené. Donc, beaucoup de gens commencent à être de plus en plus frustrés par ces problèmes-là. Et en plus de ça, Sony a annoncé il y a quelques heures qu'il ne savait pas quand le service allait revenir. Alors, certains se sont précipités et ont dit « ça va parvenir avant la fin mai », mais ce n'est pas exactement ce que Sony a dit. Ils ont simplement dit qu'ils ne savaient pas quand ça allait revenir, ce qui est déjà un problème énorme, d'autant plus que il y a les problèmes qui s'accumulent parce que d'une part, les autorités américaines commencent à s'en mêler. Ils veulent savoir ce qui s'est passé et pourquoi Sony n'a pas correctement protégé les données de leurs utilisateurs. Il y a des menaces d'attaques supplémentaires qui ont été faites contre Sony. On se demande toujours si c'est Anonymous ou pas qui a initié la première attaque. Sony a dit on a des indices qui pourraient laisser penser que... Mais Anonymous, d'un autre côté, et les indices en eux-mêmes, nous disent bah, « c'est pas vraiment une preuve, c'est simplement un indice que n'importe qui aurait pu mettre ». Et enfin, il y a une une preuve, en tout cas une des éléments qui tendraient à laisser penser que Sony avait un logiciel ancien avec des failles connues qui étaient installées sur ses serveurs et en plus une absence de firewall qui était relativement coupable dans les problèmes qu'ils ont connus pour la sécurité. Est-ce que vous avez une appréciation particulière pour ce problème au niveau de la sécurité ? Parce que certains nous ont dit dans les commentaires, et Cédric avait l'air un petit peu de cet avis, que c'était inexcusable de la part de Sony qu'au niveau de la sécurité, un tel problème n'était pas explicable de manière satisfaisante. Moi, j'étais un petit peu plus bisounours, comme l'ont dit certains, et je disais, mais vous vous rendez pas compte, c'est des problèmes énormes. Enfin, c'est des problèmes auxquels n'importe qui peut être confronté, et Sony a essayé de comprendre ce qui s'était passé avant de communiquer sur la chose, parce que ce délai dans la communication avait frustré beaucoup de monde. Vous, vous vous situez de quel côté de cet argument ? Peut-être avec l'éclairage des dernières informations, vous aurez un avis un peu plus éclairé que nous. Je commence par Jeff qui a disparu.
Pardon, si je mettais mon micro, ce serait bien. Dans un monde temps réel où les grandes marques sont censées réagir aussi rapidement que les lambins tels que toi et moi derrière leur Twitter, je pense que, un, l'erreur première qu'ils ont fait, c'est de délier autant leur communication, et deux, effectivement, manifestement, ils n'avaient pas investi énormément sur leur problème. Pas énormément. Sur leur infrastructure, ils avaient des failles qui étaient plus ou moins connues. Et le problème, c'est que ce genre de failles, étant donné la taille de leur infrastructure, c'est pas le genre de truc que tu peux régler en 24 heures ou 48 heures. Et comme souvent dans des grandes boîtes, ils ont essayé de reporter les choses en disant, bah tiens, sur quoi on travaille, est-ce qu'on travaille sur l'infrastructure ou est-ce qu'on pousse des nouveaux produits? Et puis bah, ils se sont fait prendre les mains dans le pot de miel, quoi.
Oui, ça, c'est sûr que ce problème de faille connu qui n'a pas été comblé, en gros, ils n'ont pas mis à jour l'un des éléments de leur serveur, ça, c'est beaucoup plus difficile à excuser, effectivement. Même moi qui ai tendance à être, à voir les choses du côté de la personne qui est attaquée, à me dire, mais enfin, vous vous rendez pas compte, c'est pas facile de gérer la chose et il faut savoir de quoi on parle avant d'en parler. Si ça s'avère exact, c'est un petit peu plus difficile à défendre. Yann, toi qui es un expert avéré de la sécurité informatique, enfin en tout cas tu es un développeur disons, donc tu connais un petit peu ce monde, tu as un avis différent sur la chose.
Moi je dirais que ça a pu arriver à n'importe qui. Quand tu mets en place un service comme ça, tu as des, alors je vais pas rentrer trop dans la technique, mais tu as des centaines et des centaines de modules, si on peut utiliser ce terme, qui entrent en jeu, et il suffit qu'un seul de ces modules ait une faille pour mettre en péril l'intégralité de ton système. Et il y a énormément de compagnies qui sont bien conscientes que leur système est une faille, mais le problème, c'est que pour pouvoir le mettre à jour, ben il faut bien souvent arrêter tous les services, essayer de mettre les composants à jour, régler les bugs qui sont derrière. Donc c'est quelque chose qui, aussi longtemps que le service restera offline pour pouvoir mettre à jour tous les modules, c'est un manque à gagner énorme pour Sony, comme n'importe quelle autre compagnie. Il y a beaucoup de sociétés qui ont des trucs online et qui planifient régulièrement, toutes les deux semaines ou tous les mois, le fait de mettre à jour les modules. C'est un pari que tu fais, tu te dis, bon, on va pas se faire. Jusqu'à maintenant, ça a marché, on nous a pas attaqué, donc il y a pas trop de raisons de mettre à jour.
En l'occurrence, on parlait de 3 ou 4 mois de retard, et c'était une mise à jour de. Je veux pas dire de bêtises, donc je dis rien, mais je crois que c'était un truc assez énorme, genre une faille dans Apache ou un truc du genre, tu vois, c'était pas un petit module quelque part.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que Sony soit plus en marge des mesures de sécurité qui soient appliquées dans beaucoup de compagnies. Pour avoir travaillé chez beaucoup de sociétés, voilà quoi. Il y a des fois quand tu reportes ça à tes supérieurs, tu dis attention, là on a potentiellement une faille de sécurité. Les gens qui prennent les décisions derrière, ne sont pas aussi préoccupés par la chose que quelqu'un qui est technique et qui voit le problème tout de suite.
Là, donc, c'est sûr que maintenant ils vont s'en préoccuper très activement. Voilà. Morgoth nous dit dans la chatroom, et il a tout à fait raison, oublier le firewall, ça arrive quand même pas à n'importe qui. Et effectivement, l'un des des problèmes qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'avaient pas de firewall. Et là, pour le coup, c'est clairement une faille, un oubli qui est difficilement excusable, quoi.
Attends, mais c'est pas un oubli, ça. Où est-ce qu'ils ont été chercher leur ingénieur réseau ? Faut pas déconner.
Jeff s'énerve.
Pour une boîte comme Sony, encore si c'est une, même la start-up de base qui va lancer son produit pour la première fois et qui va se retrouver à plat ventre si jamais ils ont une cotation sur TechCrunch parce que quelqu'un dit tiens allez voir l'URL et d'un seul coup t'as quelques centaines de milliers d'utilisateurs qui se pointent, c'est excusable. Mais quand rappelle-toi quand Twitter il y a un an et demi était incapable de garder le site up parce qu'ils avaient une infrastructure qui était complètement pourrie, tout le monde se était plié de rire. Ouais. Que Sony te dise les gars on n'avait pas de firewall, attends sans déconner, même ma grand-mère, ma grand-mère n'est plus là, mais même ma maman a sait qu'il faut un firewall, c'est pas exagéré.
Eh bien écoute, là pour le coup je suis plutôt d'accord avec toi, il y a quand même, ce qu'on a appris ces dernières semaines, poussé du côté, là quand même faut pas déconner, c'est un petit peu grave. Je vais avancer dans la discussion, cette histoire de Anonymous responsable, parce que on en a déjà parlé dans l'émission, Joe Hott, qui était en procès avec Sony, avait œuvré pour ouvrir la console aux hackers, mais au sens positif du terme, à ceux qui voulaient installer d'autres systèmes sur leur console. Anonymous avait dit « c'est dégueulasse, vous attaquez Joe Hott, donc on va vous attaquer ». Ils ont effectivement lancé une attaque de déni de service. Sony a dit dans son compte-rendu au Parlement américain, ils ont dit, pendant qu'on était occupé à nous défendre contre cette attaque de déni de service d'Anonymous, on nous a attaqué et donc on n'a pas pu répondre comme il fallait. Et en plus de ça, on a retrouvé un bout de fichier qui s'appelait anonymous.txt avec le texte à l'intérieur « We are legion », nous sommes une légion, qui est l'une des phrases qu'utilise souvent Anonymous. Alors, les responsables d'Anonymous ont dit non, mais attendez une seconde, nous on s'attaque pas aux cartes bleues, et c'est vrai qu'ils l'ont jamais fait jusqu'à maintenant, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas notre genre et c'est pas notre but. Et d'autres ont dit Anonymous c'est un groupe tellement hétérogène et tellement anonyme, oui, forcément, que si n'importe qui se réclame du groupe Anonymous et qui fait plus ou moins partie du groupe a participé à cette attaque, et ben c'est quand même Anonymous. Il faut avoir la responsabilité de ce qu'on fait. Quand on a un groupe aussi difficile à traquer, si quelqu'un qui fait partie du groupe, vous ne savez pas ce qu'il a fait, c'est pas parce que trois responsables disent « non, c'est pas nous » que tout à coup, c'est pas eux. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que c'est Anonymous, ça leur ressemble pas du tout, du tout. Mais est-ce que je suis encore en train d'être naïf là sur ce coup ?
Je pense que c'est très difficile à dire. Hein. Et Sony a énervé énormément de hackers avec leur arrogance constante, surtout avec cette histoire de Geohot où ils ont sorti une armada d'avocats. Donc, ils ont souvent été à la limite méprisants envers la communauté des hackers. Et c'est pas le genre de truc à faire en général. Et donc, là.
Oui, d'ailleurs, moi, je les adore, les hackers. Hein. Je vous trouve sympa, beau, intelligent, tout ça. Vos t-shirts sont cool. Ouais, c'est vachement bien.
Donc, à la limite, et c'est un peu triste, mais je suis pratiquement certain qu'à la seconde où ils vont remettre leur service en ligne, ils vont encore se faire hacker. Parce que cette histoire de sécurité, c'est un jeu de chat et la souris. Tu patches, ils trouvent une nouvelle faille. Et là, globalement, avec ce délai et ces messages que Sony pousse sans arrêt, oui, on est en train de sécuriser un maximum, etc., ce n'est qu'un challenge finalement pour les hackers qui vont se dire faites tout ce que vous voulez et puis on va voir là, au final si ça tient la route tant que ça, quoi.
Bah, d'ailleurs, ils étaient censés se faire attaquer une nouvelle fois ce week-end, certains hackers avaient annoncé la chose et visiblement ils auraient réussi à contrer cette attaque parce qu'ils ont patché leur dernière faille et il semblerait que pour le moment en tout cas la version du réseau qui est en train d'être testée chez Sony serait solide, mais de là à ce qu'elle revienne
parce que j'ai ma carte bleue quand même là-dedans, donc j'espère aussi.
Et tu l'as pas encore enlevé?
Je peux pas.
On peut pas, le réseau n'est pas en ligne, donc
Tu peux pas demander à ce qu'il le fasse, hein,
Je pense pas. Tu peux annuler ta carte bleue. Tu peux dire que tu l'as perdue.
Ah ouais, merci Sony. Hein.
Dernier élément du puzzle, les compensations pour les utilisateurs. Sony a promis, à l'époque où ils pensaient que le réseau allait revenir la semaine dernière, ils ont promis 30 jours de service gratuit de leur service PlayStation Plus, qui donne des trucs en plus, hein, je ne vais pas vous faire le détail, et deux jeux PlayStation 3 à choisir parmi 5 qu'ils auront sélectionnés dans chaque région. Est-ce que ça vous apaise, vous ?
Non, moi je veux surtout que ma carte soit sécurisée, quoi. Donc non.
Entre parenthèses, il y a toujours aucune preuve que la carte et les données de carte bleue aient été dérobées sur le réseau PSN. SOE, c'est une autre histoire, mais a priori, elles étaient protégées. Les mots de passe eux-mêmes étaient, contrairement à ce qu'on a pu penser, eux aussi hachés. Ceux qui savent ce que ça veut dire comprendront. Donc, c'est pas 100% sûr, mais c'est quand même pas stocké en clair comme on le pensait la dernière fois. Mais bon, pardon, je t'ai interrompu, Yann, vas-y.
Non, mais enfin, pour moi, c'est juste une opération marketing qui est la bienvenue. Il faut savoir reséduire les clients, les appâter à nouveau. Bon, mais c'est bien, quoi. Mais c'est pas ce qui va faire que dès que lui sera en ligne, je vais remettre à nouveau ma carte bleue ou la mettre à jour. Il va s'écouler pas mal de temps avant que je puisse refaire confiance en leur service, quoi.
C'est vrai que l'un des problèmes que ça va poser, c'est que ça a été tellement... Il y a eu tellement de publicité autour de cette histoire, on se demande si les gens ne vont pas avoir plus peur de payer sur Internet en général. Robin nous dit, notre Robin sur la chatroom nous dit, c'est vrai qu'en bon fanboy de Microsoft, Yann est un suspect potentiel. Donc je vais poser la question à Jeff de l'autre côté. Est-ce que tu penses que ça va avoir des conséquences sur Sony sérieuses, ou est-ce qu'il y a une bande de gens énervés qui est en train de dire aujourd'hui non, c'est fini, je ferai plus jamais confiance à Sony, et le jour où ça va revenir, tout le monde va se précipiter sur le PSN pour jouer à Call of Duty?
Je pense que quand tu as un produit qui est vraiment quelque chose que les gens veulent utiliser au jour le jour, et où la pensée « Ah bah ma carte bleue est à risque, etc. » ne vient pas systématiquement quand tu es en train de jouer à Call of Duty, je pense pas que si... Ah bah, sauf si le PSN est hors service pendant des mois et des mois, où en fait les gens ils doivent aller jouer à autre chose, je pense pas que ça aura un risque long terme sur Sony. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement ridicule qu'après tu te poses la question de Sony en tant que boîte sérieuse, quoi. Mais je pense pas que c'est... Il y a une déconnexion, si tu veux, avec le consommateur qui veut une chose, c'est pouvoir jouer à Call of Duty avec les copains, quoi.
Ouais, c'est sûr que ça va laisser une image durable sur Sony et sur leur réseau, et je suis certain qu'on va avoir une quantité de blagues de geeks pendant les années à venir, du genre « Ah, machin, et oui, il était chez Sony, c'est normal, oui, il était sur le PSN. » Tiens, d'ailleurs, un truc qu'on va évoquer très rapidement, on va pas passer longtemps dessus, mais la mort d'Oussama Ben Laden qui a eu lieu il y a une petite semaine avait certaines implications dans le monde de la technologie. La première, c'est que l'un des éléments qui a permis aux services de renseignement américains de confirmer, ou en tout cas qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est que la résidence dans laquelle était Oussama Ben Laden n'avait pas d'accès au monde extérieur, que ce soit Internet ou téléphone ou ce genre de connexion. Donc, le fait qu'il n'y ait pas Internet, ça leur a mis la puce à l'oreille sur une maison, sur un domaine qui coûtait aussi cher. Donc ça, c'est quand même intéressant de se dire que même au Pakistan, une maison de ce type-là qui n'a pas une connexion Internet, c'est pas normal. Et l'autre chose, c'est une blague qui m'a fait un peu rire, même s'il ne faut pas trop rire de ce genre d'événement, mais les gens ont commencé à sortir au moment de l'annonce de cette mort. Ils ont commencé à sortir une blague qui était Oussama Ben Laden est certainement furieux d'avoir laissé son adresse sur son compte PSN, parce que ça a permis aux gens de le retrouver. Voilà, c'était quand même marrant. Autre histoire de sécurité qui a défrayé un tout petit peu, mais un petit peu moins, la chronique, à peu près en même temps que les histoires de Sony, c'est cette histoire de LastPass que moi je recommande activement. C'est un service qui vous permet de stocker de manière totalement sécurisée avec des petites...
Des firewalls
Non, ce que je veux dire, sécurisé, c'est entre guillemets, parce que ça vous permet de stocker de manière sécurisée vos mots de passe, et vous retenez un seul mot de passe qui est votre mot de passe LastPass, votre dernier mot de passe que vous avez à retenir, et lui, il connaît tous vos autres mots de passe, et quand vous utilisez un petit plugin sur votre navigateur, il s'occupe de remplir lui-même les mots de passe sur les sites que vous visitez. Et l'avantage, c'est qu'il peut lui-même générer des mots de passe extrêmement sécurisés, des trucs complètement impossibles à retenir et complètement impossibles à découvrir si vous le laissez faire ça. Donc vous-même, vous ne connaissez pas les mots de passe que vous utilisez, vous n'en retenez qu'un seul, et il va, quand vous vous êtes authentifié, remplir les mots de passe sur les sites que vous utilisez. Sauf que, enfin moi, c'est un outil que je recommande vraiment vivement et qui est l'un des meilleurs moyens d'avoir des mots de passe sécurisés, parce que sinon on se retrouve toujours à utiliser deux ou trois mots de passe faciles à retenir, faciles à découvrir même parfois, pour les gens qui sont pas très avisés, et du coup on est en danger. Mais LastPass, en observant leur log, ils ont découvert qu'il y avait une petite quantité de données dont ils n'arrivaient pas à comprendre l'origine. Ils ne pensaient pas que c'était une attaque ou peut-être une tentative d'attaque qui n'a pas réussi, mais ils se sont dit, par sécurité, on va être complètement parano et on va envoyer à tous nos utilisateurs une requête pour qu'ils changent leur mot de passe principal de manière à ce que notre service continue à être totalement sécurisé. Alors certains se sont dit, à la suite de l'attaque de Sony, mon Dieu, ça y est, deuxième attaque en une semaine, deuxième attaque majeure. Le cloud n'est pas sûr, c'est l'horreur, même LastPass s'est fait possiblement hacker, donc c'est la fin des haricots, il faut plus utiliser LastPass, ils se sont fait attaquer aussi, c'était la panique. Moi j'ai dit que je recommande LastPass, je suis totalement derrière eux et je pense qu'ils ont réagi d'une manière plutôt saine et je continue largement à le recommander, je pense que c'est un excellent outil qui... Mais ça, la seule leçon à retenir de tout ça, c'est que rien n'est jamais 100% ou 1000% sûr, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Votre carte bleue peut se faire pirater sans que vous la mettiez sur Internet. Et on peut avoir énormément d'autres problèmes dans le monde réel. Je veux dire, quand on va conduire, on a une chance d'avoir un accident. Donc, pour moi, c'est juste l'un des aléas de la vie, si vous voulez. C'est beau ça, non ? Les aléas de la vie. Les aléas de la cybervie. Bon, bref. Donc, vous avez paniqué avec LastPass. Vous utilisez un service de ce type-là ?
Non, du tout. D'accord. Parce que j'aime pas du tout le concept, en fait. Il suffit que, voilà, à un moment donné, qu'ils arrivent à récupérer ce mot de passe et tous les autres sont compromis, quoi. Donc, du coup, je préfère utiliser 4 ou 5 mots de passe différents et au moins, je sais que si j'en ai un qui se fait avoir, j'ai pas tous mes services qui tombent, quoi. Enfin, je me fais pas hacker partout. Donc, parce que aussi sécurisés puissent être les protocoles de LastPass ou quoi que ce soit, tu peux avoir un keylogger, par exemple, tu te logs chez un ami, on te chope, pendant que tu es en train de le taper, on te fait choper, et puis voilà.
C'est vrai, tu as raison.
Donc voilà.
Ou alors tu te connectes sur un Wi-Fi ouvert, tu veux l'accès à Internet, et puis tu accèdes à ton compte en banque depuis.
Et voilà. Donc, je suis pas vraiment.
Donc, pour vous, il faut vivre dans une cave et ne jamais sortir de chez soi, quoi.
Faut être prudent.
Voilà. Tu te connectes pas à Internet et au réseau téléphonique, t'es vachement safe. Non, blague à part, on en avait discuté il y a quelques épisodes. Ma recommandation, c'est d'avoir un espèce d'algorithme personnel où tu crées un password différent pour chacun des services que tu utilises.
Ouais. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, le grand public aujourd'hui est peut-être un petit peu plus au courant de ces problèmes de sécurité. Et à vrai dire, je pense que la vraie leçon à retenir de tout ça, c'est que les grands services de les grandes sociétés qui offrent des services sur Internet auront eu une sorte de signal d'alarme avec les déboires qu'a connu Sony et vont sécuriser à fond leur réseau. Et je peux vous assurer que s'il y avait un responsable quelque part qui hésitait à mettre en place une mise à jour de serveur parce qu'il disait « Ouais, ça va mettre notre service à plat pendant 12 heures et donc nous faire un manque à gagner de tel et tel et tel truc », ils ont tous, dans la semaine dernière, activé les mises à jour de tous leurs services. Donc le net est devenu sans doute un petit peu plus sûr aujourd'hui grâce à Sony qui joue les cobayes. Donc merci à eux. On va enchaîner avec des nouveautés de chez Spotify. Une vraie nouveauté et une rumeur hyper intéressante. La vraie nouveauté un petit peu étrange, c'est que Spotify a été mis à jour, le logiciel Spotify a été mis à jour pour, d'une part, permettre le téléchargement, l'achat de morceaux, leur argument étant qu'aujourd'hui, on peut... À l'origine, on achetait des morceaux simples, des morceaux seuls. Ensuite, on s'est mis à acheter des albums. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à une étape d'achat de morceaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'acheter des listes de lecture. C'est-à-dire, si on a une liste de lecture qui a été faite par un ami à nous qu'on aime vraiment, on aimerait bien pouvoir l'acheter en entier. Et Spotify, aujourd'hui, nous permet ça. Bon, en fait, je pense que c'est une manière d'habiller un petit peu le fait que simplement, ils se mettent à vendre des morceaux à un prix qui est relativement intéressant, puisque si on en achète une centaine à l'avance, ça coûte seulement 60 euros. Donc, 60 centimes par morceau, ce qui est, je crois, le prix le moins cher pour un morceau de musique sur Internet. C'est un service supplémentaire, pourquoi pas, qui paraît intéressant. Et en plus de ça, le logiciel Spotify, aujourd'hui, vous permet d'utiliser vos iPods. Ce qui veut dire que, à mon avis, Sony va pas tarder... Pardon, pas Sony, mais Apple va pas tarder à leur tomber dessus parce que vous pouvez synchroniser vos iPods avec Spotify aujourd'hui. À mon avis, ça va pas durer. Réaction, Spotify est dans la bonne direction, il se fourvoie, qu'est-ce qui se passe ?
Non, je trouve ça sympa. Enfin, comme toi, je pense que ça va pas durer longtemps, cette histoire de connexion avec l'iPod. À chaque fois qu'un service essaie de faire ça, ben, ça marche un temps et après, Apple passe derrière et coupe le truc. Mais sinon, dans mon utilisation de tous les jours, il faut savoir que je paye Spotify, j'ai un abonnement tout comme toi. Mais, ma playlist reste relativement statique. Et ça, depuis à peu près, près d'un an et demi, et je me dis que finalement l'abonnement que j'ai payé tous les mois m'est sûrement revenu beaucoup plus cher que si j'avais finalement acheté morceaux, la playlist que j'utilise, quoi. Je rajoute très très peu souvent un nouveau morceau dedans, quoi.
Ah, c'est donc sûr que c'est pas pour tout le monde, il faut consommer de la nouvelle musique tout le temps pour que ça soit intéressant.
Exactement. Mais tu sais si quand tu achètes un morceau avec Spotify, ça reste du streaming ou si le morceau est vraiment, on peut le consommer offline?
Ah non, l'achat, c'est consommation offline, c'est du, bien sûr, c'est des MP3 classiques.
D'accord,
hein.
Le fait de payer, MP3, c'est... tu peux gérer comme tu veux.
Oui, oui, complètement. Okay. Ah oui, sinon, ça serait pas intéressant.
Ouais.
Jeff, réaction ? Non ?
Effectivement, je pense que Spotify se synchronisait avec l'iPod. parce que dès que, on a eu l'expérience tout trois fois, je crois, à partir du moment où ça ne passe pas par un accord avec Apple, où en gros l'accord est simple, hein, c'est tu me files de toute façon la même marge nette que si je faisais la vente directement et après tu fais ce que tu veux, ce sera à mon avis leur discussion. Ils vont faire en sorte de bloquer le truc.
Ouais, c'est sûr.
Bon, c'est bien. On voit qu'il y a Amazon qui est en train de lancer son cloud player. On voit Spotify qui est en train de faire des choses. Ça fait bouger l'industrie de la musique. Ça permet en fait de pousser les artistes et deux, de faire en sorte que les startups qui se développent dans le monde de la musique fleurissent. Et comme j'en ai trois, moi ça me fait plaisir.
Forcément. Bah, justement, Spotify est en train de s'étendre même au-delà du monde de la musique. Ils savent qu'il faut se diversifier et offrir énormément de services parce que tout le monde est en train de s'attaquer au monde de la musique, que ce soit Google, Amazon ou Apple, enfin, s'attaquer au monde de la musique. Étendre le type de services qu'ils offrent dans le monde de la musique. Et Spotify, il semblerait, alors là c'est une rumeur, serait en train de négocier avec les studios de films, de cinéma, pour offrir des services de streaming de films. Alors, certains ont dit c'est pas vrai du tout, et quand je dis certains, c'est le président de Spotify, donc a priori il peut nier la chose. Donc on ne sait pas ce qu'il en est vraiment, mais ça serait génial que Spotify intègre un service de... C'est une sorte de Netflix à la française, mais pour les Américains je pense que ça ne changerait pas énormément. Enfin, je dis à la française, je veux dire, ça serait un Netflix qui s'intéresse à l'Europe. Pour les Américains ça ne changerait pas énormément puisqu'ils ont déjà Netflix, mais... Bon, bref, moi je serais évidemment très content. On sait que Netflix, ça nous plaît et on l'attend avec impatience.
Mm-hmm.
Le seul truc, enfin moi je trouve que ce serait génial, sauf que d'un point de vue pratique, Spotify il n'est pas vraiment orienté ordinateur plugé à une télévision. Si tu regardes un Boxy ou une boîte Netflix compatible, un truc comme ça, t'as une télécommande qui te permet de zapper, de choisir un film, un truc comme ça. Spotify c'est un truc que tu mets sur un PC et je dois t'avouer que je regarde plus de films sur mon PC quoi aujourd'hui.
Voilà, non mais Netflix. C'est sur Xbox, sur PlayStation, etc. Il n'est pas impossible d'imaginer que Spotify y soit aussi à terme.
Voilà, il faudrait qu'ils sortent un truc comme ça, un partenariat avec Xbox ou PS3. Enfin, non, pas PS3. Mais voilà, un truc que tu peux plugger facilement à ta télévision. Pour parce que sur une télé, voilà, à part les séries, peut-être, voilà, t'as 30 minutes à tuer, bah, tu te mets à un épisode de Friends sur Spotify. Sur ça, c'est pas. Pour un film, je trouve ça un petit peu lourd.
D'accord. Oui, bah ça, il est évident que ça serait sur télé, iPad, machin, tout ça, si ça devait marcher. Mais... Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment une rumeur de chez rumeur, ça. Une dernière nouvelle avant de passer à justement nos news et rumeurs qui sont nombreuses aujourd'hui. Amazon préparerait sa vraie tablette, pas simplement e-book reader comme le Kindle. On a eu des rumeurs émanant de chez les constructeurs, chez les fournisseurs de pièces détachées d'Asie, qui laisserait penser que Amazon pourrait être en train de préparer une vraie tablette, donc une tablette a priori sous Android, hein, on ne sait pas, mais une tablette pour venir concurrencer véritablement l'iPad. Pour moi, c'est qu'une question de temps, c'est une évidence, et Amazon est parmi tous les concurrents qui sont aujourd'hui en train d'essayer de prendre du terrain sur l'iPad, celui qui a le plus de chance parce qu'ils ont, en plus d'une expertise matérielle automatique, parce qu'ils savent ce qu'ils font en général et qu'ils ont déjà un petit peu d'expertise avec le Kindle, même si c'est quelque chose de complètement différent, ils ont une stratégie de contenu et une notoriété et un système de paiement qui est déjà établi, qui est énorme et ils pourraient prendre une part de marché vraiment importante s'ils ne ratent pas leur coup sur le logiciel. C'est le concurrent le plus sérieux pour moi à Apple sur le marché des tablettes. Est-ce que je me fais des films? Oula, ça réfléchit. J'ai dit un truc dur.
Non, mais je vais laisser Jeff exprimer son point de vue.
J'ai appris à respecter ce que faisait notre ami Jeff Bezos après avoir dit que EC2 et S3 c'était une connerie il y a 3-4 ans quand c'est sorti, donc je vais pas refaire la même chose. Cela dit, c'est vrai que le Kindle c'est du hard dédié, ça fait très 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 bien la partie e-book, mais de là à créer une expérience à l'iPad avec l'infrastructure, les API, le système de vente d'applications via l'App Store, etc., plus tout ce qui fait que c'est un device assez magique, là, je demande à voir.
Bah, ils ont déjà un App Store sur Android qu'ils ont sorti il y a peu de temps, donc ils préparent un peu le terrain.
Ouais, mais enfin bon, l'App Store sur Android, c'est pas la même chose que l'App Store sur iOS. Hein.
Non, c'est sûr, mais bon. J'y crois. Moi, je veux y croire. Je veux y croire. Et en plus, je pense qu'il y a largement assez de place sur le marché des tablettes pour plus d'un concurrent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le seul véritable, la seule marque qui a une vraie présence, c'est Apple, contrairement au marché des smartphones. Et il y a une place à prendre tout de suite, et je suis sûr que... Bref, je me répète. Yann ?
Enfin, je notais une phrase de notre Robin sur la chatroom qui disait que Carrefour va bientôt sortir sa tablette aussi. Donc, c'est hallucinant comment tout le monde se met à sortir sa tablette.
C'est sûr. C'était le cas, excuse-moi, je te coupe Yann. C'était le cas il y a quelques mois où tous les manufacturers de téléphones ont sorti leur tablette. Et il n'y en a pas une seule qui est arrivée, enfin il y a peut-être une qui est arrivée à la cheville de l'iPad 1. L'iPad 2 est sorti, tout le monde est reparti avec la queue entre les jambes. C'est bon, on va notre copie.
Tu sais, c'est pas parce que tout le monde s'est cassé les dents sur le marché que le marché est imprenable. C'est comme dire, quand Apple a sorti le téléphone, et on pourrait dire, ah oui, mais regardez, Nokia, machin, truc et truc sont déjà là, et ils essayent de faire des téléphones de ce type-là, ça marche pas, donc Apple va échouer. Ça veut rien dire, il suffit d'avoir la bonne approche, et peut-être qu'Amazon aura la bonne approche.
C'est possible.
Ouais, peut-être, mais là, il y a encore très peu d'éléments. Enfin, je veux dire, ce que je vois, c'est qu'ils vont sortir une nouvelle tablette, mais toujours sur Android. Donc, finalement, le système d'exploitation ne change pas au niveau des services qu'elle va proposer à Amazon. Ben, on n'a pas vraiment vu. Ils ont pas parlé de grand chose, quoi. Je sais qu'ils travaillent sur un App Store qui sera vraiment très intégré et customisé pour Amazon. Mais à part ça, qu'est-ce qui fait que quelqu'un sera plus intéressé par une tablette Amazon que la tablette Samsung? Je ne sais pas, vu que c'est toujours Android qui est en dessous. Je sais pas,
les services qu'il y a derrière. Les services et le contenu qui sont derrière chez Amazon. Bon, enfin, on fait des plans sur la comète. On en reparlera certainement dans les mois à venir parce que moi, je sens, là, hein, je le sens qu'il va y avoir un truc qui va être annoncé à un moment. Hein, peut-être. Dans les mois ou les années à venir. Genre, peut-être. C'est possible. On va enchaîner avec un message de notre sponsor Numéricable. Comme vous le savez, d'ailleurs, on va parler un petit peu plus de Numéricable dans les minutes à venir. Restez avec nous, ça va être intéressant. Mais avant ça, je vais vous parler de Numéricable pour vous parler de leur service de télévision. Parce que, comme vous le savez, Numéricable, c'est le triple play, internet super haut débit, tout ça. Mais avant tout, Numéricable, c'est le câble et le câble, c'est la télé. Ce qui veut dire que chez Numéricable, les chaînes de télé de qualité sont directement intégrées dans les bouquets. Et je vais vous donner un exemple avec l'offre NC Box Power qui a internet à 100 mégas et qui comprend déjà dans l'offre 150 chaînes et services, dont par exemple, hein, je vais prendre un exemple au hasard, si vous êtes fan de séries télé, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à aimer les séries télé, intégré donc dans le service, dans le pack de la NC Box Power, TF6, Série Club, Sci-Fi, Paris Première, Teva, 13e rue, June, Jimmy. Donc toutes les chaînes spécialisées sur la télévision et sur les séries télé sont déjà incluses dans le pack. Donc si vous êtes un fan de télé en général, il y a vraiment un choix à faire, c'est celui de Numéricable, puisqu'ils savent de quoi ils parlent et c'est leur cœur de métier. Donc si
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Numéricable et sur leurs différentes offres, vous pouvez passer par nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable et vous serez redirigé vers leur site avec un petit mot « Salut, on vient de la part de Nowatch ». Donc ça nous fera plaisir et ça leur fera plaisir en même temps, c'est double gagnant. Et vous pourrez en savoir plus sur leurs offres. On les remercie et on enchaîne sur la suite de notre programme. La suite de notre programme, c'est donc, comme je le disais, Numéricable, qui a fait pas mal de bruit. Alors, je tiens à dire, hein, on est, comme vous le savez bien sûr, sponsorisé par Numéricable, mais on n'a aucune information sur cette histoire. Donc, je parle complètement sans savoir plus que les gens qui ont lu ce qui s'est passé sur la toile. Donc, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, si j'ai bien compris, il y a un site web qui a été lancé qui s'appelait larevolutiondumobile.com et on ne savait pas exactement d'où ça venait ou ce que ça voulait dire. Il y a un communiqué de presse qui a été envoyé à différents organes de presse qui n'a pas fait énormément de bruit jusqu'à ce que le 6 mai dernier, Free envoie un message, enfin une lettre d'un avocat à ces gens-là, à la Révolution du Mobile, pour leur demander de retirer leur site parce que Révolution et Mobile étaient trop proches de leur concept de Freebox Révolution. Bon, en toute objectivité, Révolution, c'est un terme relativement standard, c'est un petit peu capillotracté, mais bon, pourquoi pas. Ils ont donc envoyé ce message. Et les gens qui étaient derrière la révolution du mobile, voyant que leur buzz n'avait pas pris autant qu'ils le pensaient, se disent « bah voilà notre occasion ». Ils redistribuent discrètement et en prenant des morceaux choisis la lettre de l'avocat et donc l'envoie sur la toile à certaines personnes bien choisies. Et là, embrasement, tout le monde se dit « Ouh là là, Free envoie un message à la révolution du mobile, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est pas Free, donc de qui s'agit-il ? Donc que se passe-t-il ? » Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est effectivement Numéricable qui est derrière et qui, visiblement, alors là, on est dans le domaine de la rumeur quand même avérée, pas avérée justement, de la rumeur la plus complète, serait en train de préparer une offre mobile illimitée en partenariat avec Bouygues, il deviendrait donc l'un des premiers, si ce n'est le premier, opérateur virtuel pour Bouygues, et il ferait une offre d'abonnement mobile illimité pour données et voix à un tarif intéressant. Si je ne m'abuse, je vais vérifier tout de suite pour voir où on en est, mais ils ont un compte Twitter, la révolution du mobile, twitter.com/larevolutiondumobile, où ils sont en train de faire une sorte de compte à rebours inversé, enfin non, de compte à rebours pour voir jusqu'où ils vont aller dans le prix le plus bas. En fait, ils disent d'abord c'était 50€, puis 45, puis 40. Il semblerait qu'ils aillent jusqu'à 29,90€ pour un abonnement tout illimité. Rien de tout ça n'est encore complètement confirmé. Mais il semblerait que ça soit ce qui est en train de se profiler. Et en l'occurrence, c'est un coup intéressant. D'une part, parce que si c'est effectivement Numéricable qui est derrière, ils seraient les premiers à offrir une offre aussi intéressante. Et ils court-circuitent Free, qui du coup avait peut-être une raison de se dire ça nous concerne indirectement. Et d'autre part, c'est une offre intéressante tout court. Si c'est effectivement, ça se confirme, être une offre à 29,90€ pour tout illimité, c'est la joie, non ? Enfin, la France, vous n'êtes plus en France, hein, ouais, c'est ça.
La France me manque, des fois. C'est... Quand je vois des trucs comme ça.
Tu payes combien, toi ?
Cher.
D'accord, très
cher. Beaucoup plus cher que ça. Mais c'est génial et c'est très agressif comme prix. J'imagine que chez Free, ils doivent pas être très contents vu le pognon monstrueux qu'ils ont lâché pour avoir leur licence 3G, etc. Et que Numéricable fasse une petite pirouette comme ça pour pouvoir s'y introduire d'une façon indirecte. Donc, non, c'est un tarif qui est très intéressant. Si ça s'avère effectivement, enfin, s'il est avéré que ça soit à 30€, mais même 40€, pour illimité sur chez tous les opérateurs tous les jours pendant tout un mois, c'est du coup quelque chose de vraiment très très intéressant. Je sais pas s'il y a le forfait data qui est inclus aussi.
Bah, normalement, donc, ce dont on entendrait parler, c'est ça. Mais ouais. Bon, on a pensé à Bouygues parce qu'ils n'ont pas encore de MVNO et donc ça serait possible. Enfin bon, encore une fois, c'est des rumeurs. Hein, je veux être très clair.
Si ça inclut le data, c'est vraiment pas cher.
Ouais. On est d'accord.
Parce qu'on paye 30$, on paye 30$ juste pour les datas pour les iPhones, par mois.
Oui, c'est sûr. Bah écoutez, en tout cas, sur leur page larevolutiondumobile.com, ah pardon, c'était pas sur Twitter, c'était sur Facebook qu'ils font leur compte à rebours. Et il y a sur le site une annonce qui dit « La révolution du mobile commence, commence le 11 mai ». Donc on en saura plus dans quelques jours. Et si on voit... Hop, ils disent sur leur compte Facebook aujourd'hui, il y a quelques petites mises à jour, dont la révolution du mobile, c'est l'illimité à 35€ par mois. On verra bien ce que ça donne. La suite, le Daily perd plein de sous, mais malgré ça, il y a énormément de publications qui s'ouvrent à l'iPad. Alors le Daily, c'est cette publication quotidienne de Murdoch, de Matt Murdoch. Je crois que c'est Daredevil, Matt Murdoch. Rupert Murdoch sur iPad, et visiblement il perdrait 10 millions d'euros, ils auraient perdu 10 millions de dollars, pardon, dans leur premier trimestre. Mais à côté de ça, il y a énormément d'autres publications qui arriveraient sur iPad. On parle bien sûr de cet abonnement. Disponible sur l'iPad directement, qui avait fait couler beaucoup d'encre, blablabla. Et comme ce qui s'est passé avec la musique, avec la télé, avec le cinéma, il semblerait que malgré toutes leurs complaintes et leurs mécontentements, les éditeurs de contenu soient en train de se rallier à Apple contre leur gré un petit peu, enfin disons de pas de bon cœur en tout cas, et qui soient en train d'arriver. On parle de Hearst, de Times Inc., etc., etc. Vous avez un retour sur cette question ou on enchaîne ?
quelque part, moi, ça me surprend Condé pas Nast, vraiment qu'il...
Oui, il y a vraiment tout le monde hein, qui est en train d'arriver. Pardon, je t'interromps.
Non, non, pas de problème. Mais je sais pas, en tant que consommateur, il y a tellement de façons gratuites d'accéder à l'information qui fait que je me suis jamais posé la question si jamais je voulais savoir, avoir plus d'informations sur l'attaque du côté de, enfin, au Pakistan pour Ben Laden. Voilà, j'ai Le Monde, j'ai Le Parisien, enfin, j'ai tellement d'applications gratuites qui me permettent d'avoir accès à cette information, qui fait que, et de façon relativement détaillée, hein, donc, qui fait que, voilà, ça m'a jamais traversé l'esprit une seule seconde d'aller voir cette version payante de magazine, sûrement bien mieux que ce que je lis de façon gratuite, mais voilà, c'est pas suffisamment.
Ah, mais c'est ça le problème, il y a une alternative gratuite quelque part, donc.
Voilà, donc du coup, je sais pas.
Puis c'est pas seulement gratuit, comme tu le dis, Yann, c'est bon aussi. Je veux dire, l'application CNN marche très bien. Il y a des browsers de news qui marchent bien aussi. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vois pas pourquoi est-ce que t'irais dépenser ne serait-ce que quelques dollars, parce que c'est que dalle, c'est un café ou deux, quoi. Mais c'est le principe de dire, bah oui, je vais aller prendre cette appli, ce magazine, et le problème qu'ils ont, c'est que je pense qu'ils te donnent même pas accès au truc gratuitement, ou quand j'avais regardé, c'était pas le cas, ils te forcent à payer depuis le début, et franchement, t'as pas de raison, quoi.
Ouais. Bon, par contre...
Dans ce marché-là, il faut que tu sois prêt à dépenser de l'argent en marketing, en subscription gratuite, etc., pendant un temps, de manière à ce que les gens se mettent regarder, s'habituent et se disent « Ah bah non, j'aime cette expérience, je veux continuer à l'utiliser et donc je paye. Ouais. » Mais tout ça parce que c'est News Corp, je vais payer $5 par mois, bah non. Ou $5 par semaine, non.
Ouais. Visiblement, les gens sont également réfractaires à l'idée du Fnac Book, puisqu'on a entendu les premiers chiffres de vente du Fnac Book qui auraient vendu en tout depuis Noël... qui aurait vendu en tout 14 000 unités, en tout. Et depuis Noël, les ventes ont été divisées par 3. Donc, ça veut dire que ça s'est un petit peu vendu avant Noël, jusqu'à Noël. Et encore un petit peu, c'est pas énorme puisque le total est de 14 000. Et depuis Noël, ça se vend quasiment plus. Enfin, en tout cas, divisé par 3.
Et j'en profite pour dire que
un chef de produit chez la Fnac, il doit se saboter le cul. Là.
il fallait le tenter, je veux dire. Effectivement, c'est pas. Mais si tu tentes rien, là, c'était. Moi, je trouve que c'était une initiative intéressante qu'il fallait essayer. Il s'est planté, ça a coûté beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais le fait de mourir lentement coûtera encore plus d'argent au final.
Ouais, et j'en profite pour dire que le coût de la tablette Carrefour, c'était pas des conneries en fait. Hein. Elle existe vraiment. Elle fait 199€ et voilà quoi, elle tourne sur Android. Donc,
t'es sérieux?
Ah non, notre Robin vient de mettre le lien sur la chatroom, comme quoi il est important d'être sur la chatroom. Et oui, ça existe vraiment quoi. Ils l'ont sorti, je crois, en février et ça tourne sur Android. D'accord. 199€. Voilà.
Ah donc, écoute.
C'est trop fort.
Très très bien. Intéressant. Vous savez ce qui est également très très bien et intéressant, les prochaines puces de chez Intel qui seront, attention, quel est le terme marketing qui est sympathique en ce moment?
La 3D.
Exactement, les prochaines puces de chez Intel seront en 3D. Alors bon, c'est pas de la 3D. Non mais bon, c'est un terme un petit peu buzz.
Puces, en fait, c'est que n'importe quel trailer que tu vas voir, n'importe quelle bonne annonce que tu verras à la télé, même si c'est un film d'amour ou quoi que ce soit, à la fin, on te dit toujours en 3D. Tu vois, t'avais pas l'intention d'aller le voir, mais maintenant que c'est en 3D, tu sais, là, tu vas foncer.
Ouais, c'est sûr.
C'est complètement ridicule. Mais je t'en prie, excuse-moi. Ouais.
On a acheté une nouvelle télé pour le bureau, là, et ben, mon assistante m'a dit, et on achète version 3D. What? Donc, franchement, t'as du 3D maintenant avec des lunettes, etc. Et ça pousse, et il y a un gros effort de marketing autour de ça.
Ouais,
c'est passionnant.
Bah, le terme est accrocheur et d'ailleurs ça leur a fait, beaucoup de gens en ont parlé pour ça aussi, mais c'est vraiment intéressant, là on va geeker un petit peu, la loi de Moore qui est la loi qui dit que la puissance des microprocesseurs, enfin non pas la puissance en fait, la quantité de transistors sur les microprocesseurs double tous les 18 mois a été respectée depuis des décennies. Mais elle n'est pas respectée parce que c'est une loi mathématique ou scientifique, c'est une loi vraiment statistique, c'est empirique. On a constaté, M. Moore, qui était l'un des fondateurs d'Intel, a constaté que le nombre de transistors doublait tous les 18 mois. Et donc, la puissance, en gros, hein, en faisant un raccourci rapide, double aussi tous les 18 mois. Ce qui fait qu'on a pu avoir une miniaturisation aussi énorme, des ordinateurs aussi qui ont rapetissé autant, des téléphones portables aussi puissants et qui consomment aussi peu. Mais il faut des innovations énormes en permanence de la part des ingénieurs pour que ça soit possible. Et là, l'innovation qu'ils ont réussi à mettre en place, qui est également assez intéressante, c'est ces fameux transistors, ces tri-gate transistors en 3D. En gros, pour résumer, un transistor, c'est un élément électronique qui arrête le courant quand on veut et qui laisse passer le courant quand on veut. Et quand il laisse passer le courant, il faut qu'il laisse passer le courant, mais que la porte soit suffisamment conductrice pour en laisser passer sans perte de chaleur. Et quand il l'arrête, il faut que ça s'arrête complètement sans perte de chaleur non plus. En l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la réduction de la taille, on arrivait à 22 nanomètres maintenant, 22 microns, on n'arrivait plus à avoir des passages, des circuits imprimés, le circuit en lui-même, oui, était trop petit pour tenir sur une seule feuille en 2D. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils redressent le circuit à 90 degrés, ce qui fait qu'il est plus haut que large. Et en gros, il a un petit peu une forme 3D, si on veut. On peut dire qu'il est un petit peu 3D. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une innovation assez incroyable de la part de chez Intel. On me dit que c'est incroyable, donc je les crois parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi. Mais bon, tout le monde avait l'air assez impressionné. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ça va leur permettre d'aller... Ils ont déjà cette technologie qui fonctionne dans des prototypes construits. Donc, ce n'est pas juste de la recherche théorique. Et surtout, ça va leur permettre d'aller plus loin que les 22 microns où ils sont aujourd'hui. Et ça, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer dans la loi de Moore et continuer à avoir des processeurs encore plus puissants, encore moins consommateurs d'énergie et encore plus rapides. Et c'est extrêmement important pour poursuivre la voie dans laquelle on est dans l'informatique tout entière. Donc, Intel est vraiment en train de reprendre le dessus sur la... Enfin, de conserver son avance dans le domaine de la recherche et développement. Et c'est important au moment où on entend des rumeurs sur les directions que prennent ARM, AMD, etc., ces autres acteurs du milieu. Moi, ce genre de truc hyper geek, ça me fascine complètement. J'ai l'impression d'être un peu tout seul quand même dans l'histoire.
Non, parce que moi, j'investis pas dans le hard, mais j'ai un copain qui m'a dit « Oh, je vais t'amener un physicien, il prétend avoir inventé le computer quantique. »
Ah, donc, intéressant.
Donc, un ordinateur qui ne répondrait pas au principe de la physique actuelle, mais de la mécanique quantique, et donc avec un système de...
Donc les bits ne sont pas 0 ou 1, mais ils sont 2 en même temps.
Etc, 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 etc. Et donc...
C'est un peu ce après quoi courent les trois quarts de la communauté d'informatique quantique, tout ça, c'est un peu le Graal, quoi.
Ouais, mais c'est pas... À ce jour, c'est resté encore très, très dans le domaine de la recherche, il y a très peu d'applications pratiques et le Gus en question prétend avoir des applications pratiques de son ordinateur quantique. Et donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire après le meeting, mais le geek que je suis, en fait, se réjouit d'avance.
D'accord. Bon, tu nous diras ce qu'il en est. Non, pardon, Yann, tu voulais dire un
truc ? Non, du tout. Je me dis juste que quand il n'y a plus de place dans une agglomération pour mettre des pavillons, on met des immeubles. Donc... Voilà quoi.
D'accord, c'était l'image sur la 3D. Oui, ça m'a mis. J'ai mis une seconde à faire le lien. Oui, effectivement. Donc 3D. Effectivement.
Ça, c'est ce que j'appelle le bon sens à la française.
Voilà.
C'est du béton.
Voilà. Friend touch, monsieur. Friend touch.
Les puces Intel en trigate. C'est très gai en français, tu vois. Le Wall Street Journal aussi est plein de sens pratique. Ils comptent lancer leur compétiteur. Ils l'ont lancé déjà ou pas encore ? Je ne sais même plus. Bref, ils ont leur compétiteur à Wikileaks. En gros, ils veulent un site qui permet aux gens qui veulent leur donner des informations de manière anonyme de venir les leur donner sur leur site qui s'appelle Safe House de manière anonyme, comme ils le feraient chez Wikileaks. C'est a priori hyper intelligent. Parce que c'est une avenue d'information qui est désormais importante dans notre monde de l'informatique moderne, des interwebs. Mais le problème, c'est que, visiblement, ils auraient construit ça n'importe comment, et les premiers chercheurs qui ont étudié la chose leur ont dit que c'était plein de problèmes de sécurité partout, et qu'on pourrait facilement identifier les personnes qui s'en serviraient, et que donc, c'était surtout à éviter si on voulait rester anonyme. Donc, bon, peut-être copier à revoir.
Et puis vous l'appelez pas Safe House, parce que c'est... Puis c'est France, c'est là où se font buter les informateurs donc, dans les films.
Oui, la safe house, c'est l'endroit où on va quand on est découvert et on se dit merde, on va aller à notre safe house là où on a nos vivres et nos armes et autres faux passeports. Sauf que les méchants ont toujours eu un espion à la CTU et qu'ils vous attendent à la safe house avec un lance-roquette.
Parce que seul Jason Bourne, il peut s'en sortir.
Exactement. Donc si vous n'êtes pas Jason Bourne, n'utilisez pas safe house. Allez plutôt sur Wikileaks. Google I.O. commence bientôt et il y a des histoires intéressantes sur où sont aujourd'hui les choses qui ont été annoncées chez Google I.O., qui est la grande conférence pour les développeurs de chez Google. Et on avait annoncé des trucs du genre Friend Connect, Android, qui marche évidemment très bien, Google Wave, paix à son âme, WebM, qui... commence à prendre du galon, mais chez YouTube, qui appartient aussi à Google. Le Chrome Store, ça existe, mais bon, c'est pas qu'on soit hyper au courant. Google TV, l'année dernière, hyper pétard mouillé aussi. Bon, Google I.O., on y attend quelque chose d'incroyable?
Bah écoute, c'est toujours des expériences hein, que propose Google. Voilà, on est en train de bosser là-dessus. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On va le lancer. Ouais. Et puis, si vous arrivez à en faire quelque chose, bah, tant mieux.
Google Music, peut-être qu'il arrivera enfin, le service amélioré. Bon, on verra, ça c'est à suivre.
Moi, j'y vais pas, j'ai pas le temps.
Voilà, ça veut tout dire. Non, mais toi, t'es, comme dirait la chatroom, toi, tu es un fanboy Apple, donc ça compte pas.
J'aime beaucoup Google aussi. J'ai rien contre Google.
Une autre nouvelle qui là n'est pas complètement de la news mais qui est quand même fascinante. Je ne sais pas si vous avez vu ce mini micro PC qui a été développé par David Braben, qui est un développeur de jeux. Il a créé en fait un PC qui tient sur une clé USB et qui coûterait 25$ aujourd'hui. Enfin, c'est carrément réaliste, 25$ pour fabriquer un PC comme ça. Sur le PC, enfin, c'est vraiment une clé USB, il y a un port USB pour brancher un clavier, une souris, machin, et un port HDMI pour brancher sur la télé ou l'écran. Et sur le PC, c'est pas un truc complètement ridicule. Il y a un processeur ARM à 700 MHz, il y a 128 MB de RAM, il y a OpenGL, il y a un petit système Linux, évidemment. Il peut afficher du 1080 sur la télé. Enfin, c'est un vrai petit ordinateur. Et lui, ce qu'il veut en faire, c'est l'utiliser dans l'éducation pour que tout... les étudiants et les élèves en école élémentaire ou enfin maternelle, peut-être pas maternelle quand même, faut pas exagérer, mais école élémentaire, primaire, secondaire, etc., puissent avoir un PC. Et en l'occurrence, ça coûterait 25$, une vingtaine d'euros, 17€. Et je sais pas si vous avez vu l'image de ce truc-là, mais c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment une mini-clé USB. Incroyable, le truc.
Ouais, c'est assez impressionnant, mais bon, voilà, quoi, il faut quand même, en fait, tu dois avoir un appareil assez bizarre, quoi, au final, puisque il te faut quand même un écran, un clavier, une souris, donc c'est pas juste 17$, quoi, il faut quand même acheter les autres périphériques.
Oui, c'est sûr. Enfin, le PC en lui-même coûte.
Est intéressante, ouais.
Ouais, c'est sûr. Autre nouvelle, Facebook paierait les gens pour regarder des pubs dans les jeux. Incroyable! Et pourtant, c'est bien le cas. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'étudier un nouveau système de pub pour, en fait, donner des crédits Facebook dans les jeux aux gens qui regardent les pubs. Moi, je dis, tout le monde y gagne. C'est intéressant ou c'est du marketing invasif, horrible et à proscrire ? Je vous pose la question à vous et à la chatroom en même temps. Vous regarderiez pour... 10$ Facebook, ou enfin bon, en l'occurrence, ça serait 10 centimes d'euros, une publicité non. Sur Facebook.
J'ai autre chose à faire.
D'accord, ok, toi ça te saoule, Jeff.
Moi non, mais il y a des millions de consommateurs qui le font.
D'accord. Lionel G dans la chatroom nous dit non, et c'est le seul qui répond, donc visiblement ça n'intéresse personne. On va passer à la suite. Alors, le mariage royal a été hyper... Ah non, pas de pub, nous dit Quentin, d'accord. Le mariage royal a été hyper suivi sur le net. Bon, on va pas aller plus loin, c'est ce que, qu'on avait à
je
dire là-dessus.
Je savais qu'on n'avait pas le droit de tweeter pendant le mariage royal.
Non, si toi, t'avais invité. Le droit, hein. C'était juste si t'étais invité.
Oui, oui, voilà, si t'étais invité.
Oui. Bah oui, non, mais c'est normal, t'imagines le manque au protocole. Alors, Kate avance vers le truc. Oh, elle lui prend la main. Elle l'a embrassé.
Ah, c'est mignon.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu le bisou sur le... sur le balcon, mais c'était un bisou hyper... enfin, il aurait pu
royal.
Y mettre un peu... Oui, voilà, c'est un peu régalien. Julian Assange dit que Facebook est la plus grande spy machine inventée de l'histoire, enfin, par les États-Unis. Il dit, bon, OK, Facebook n'est pas ceux qui vont donner vos informations au gouvernement, mais vous mettez énormément d'informations là-dedans et si le gouvernement veut aller les voir, eh ben ils peuvent hyper facilement y aller et ils ont des moyens de, d'obtenir ces informations-là. C'est une machine à espionner le monde, géante pour le monde entier. Dans la théorie, il n'a pas foncièrement tort, mais là, on commence quand même à voir ressortir les théories du complot, à mon avis, de Julian Assange, qui est un petit peu... Il avait réussi à être quand même hyper respectable, hyper, tu vois, policé, hyper... Là, il ne faudrait pas qu'il sombre trop dans ce genre de théorie. Facebook est une machine à espionner du gouvernement américain. Bon, moi, je trouve ça un peu... Ça lui fait perdre en crédibilité, je trouve, de dire ce genre de choses. Même si, dans le fond, il a raison, mais... Ouais, bon. Ok, ça vous inspire pas. Google ou Facebook rachèterait Skype, encore une rumeur. Hein. Moi, j'espère que si Google rachète, ils ne vont pas les envoyer du côté de Wave parce que le monde des podcasts serait complètement détruit. Bon, c'est encore une rumeur. Apple devient la marque pour les consommateurs.
C'est une grosse rumeur quand même, on entend bien parler ici. Là.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Facebook ou Google, hein, mais ça, c'est un petit... Oui, c'est
ou Microsoft.
Pas... Microsoft a effectivement été évoqué aujourd'hui ou dans le mix aussi, ouais. C'est sûr que Google est une société, pardon, Skype est une société qui a un marché intéressant. Apple deviendrait la marque la plus valorisée dans le monde devant Google. Quand on dit la marque, c'est pas la valeur de la société, hein. Le nom de la marque auprès des consommateurs, c'est la marque qui vaudrait le plus cher, c'est-à-dire si elle était à vendre, selon une étude. Au-delà de Google, Apple est la plus, le nom Apple est le plus valorisé. C'est pas étonnant et en même temps c'est un petit peu surprenant, mais bon, c'est une montée, on va dire, météorique d'Apple qui est aujourd'hui devant des sociétés comme... Enfin, c'est en termes de notoriété positive, on va dire, mais ils sont devant des sociétés comme bon, Google, pourquoi pas, Microsoft, bon, Hewlett-Packard, Amazon, tout ça, mais... Toutes catégories confondues, ils sont devant Google et IBM aussi, mais ils sont devant des sociétés comme McDonald's ou Coca-Cola ou ce genre de choses qui ont une notoriété au niveau mondial hyper importante. Donc, bon, c'est intéressant de voir ça. Et enfin, The Pirate Bay déclare la guerre de l'Internet, The Battle of the Internets, qui est sur le point de commencer. Parce qu'il semblerait que les gouvernements du monde entier sont en train, en tout cas en Europe, poussés par les États-Unis, en train de discuter la mise en place d'un firewall géant qui entourerait tous les réseaux européens pour pouvoir bloquer les sites dont ils estiment qu'ils ne sont pas bons à consulter. Et là, effectivement, si c'est effectivement le cas, c'est assez inquiétant, surtout que c'est pas la première fois qu'on entend des histoires de négociations secrètes. La première fois, c'était, enfin, on avait récemment entendu parler de l'ACTA. Et c'est à surveiller, quoi. Disons que si vous entendez parler de ça et que vous voulez agir, essayez de trouver des moyens d'agir en contactant votre député, en vous engageant, en parlant autour de vous, parce que nous, dans la communauté geek, on est impliqués, on connaît ces histoires, mais que ce soit nos parents, nos cousins, nos amis au boulot, etc., ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Donc là, on n'a pas encore les détails, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais on suivra cette histoire avec attention dans les semaines et les mois à venir, et je vous engage à en discuter autour de vous si ça s'avère être exact. Ils ont fait un message chez The Pirate Bay assez intéressant, assez marrant, avec un détournement d'un discours de Churchill qui est peut-être un petit peu à propos, même si évidemment c'est toujours un petit peu exagéré. Bon, écoutez, on arrive à la fin.
Je peux en rajouter une notre... en temps réel.
Bien sûr, avec plaisir.
Parce que dans la catégorie des statistiques qui ne servent à rien, il y a un chercheur qui vient de dire que l'iPad 2 que vous pouvez mettre sur vos genoux est plus puissant que le Cray 2 quadriprocesseur de 1985 qui était refroidi au nitrogène, et donc ça, c'est très fort.
Mais écoute, c'est entièrement à propos quand on parlait de l'histoire de la loi de Moore et des puces Intel 3D. C'est grâce à ce genre d'évolution qu'on a un iPad. Mais effectivement, c'est... Enfin bon,
un
quand
iPad
on dit
2,
un iPad
2.
Oui,
un iPad 2.
Excuse-moi.
Quand même,
pardon,
quand même. Hein.
Oui, attention. C'est vrai, ça change tout. Non, mais c'est vrai que le Cray 2, parce que les plus jeunes d'entre vous, ça leur dira pas grand-chose, le Cray, mais... À l'époque de Terminator, je me rajeunis pas, mais à l'époque de Terminator, on parlait des craies comme des machines surpuissantes, les trucs qui étaient utilisés par les gouvernements pour faire des calculs hallucinants, pour afficher 3 pixels et calculer des trajectoires de missiles que votre calculatrice calcule aujourd'hui, quoi. Mais c'était les trucs qui coûtaient des millions de dollars, que personne ne pouvait se payer, et se dire qu'un iPad 2 est plus puissant qu'un Cray 2, enfin je sais pas, pour moi un Cray 2 ça représente un truc quoi, ça représente un truc, et même aujourd'hui comme ça si on m'avait demandé est-ce que tu crois qu'un iPad 2 est plus puissant qu'un Cray 2, j'aurais dit mais attends t'as fumé, c'est même pas possible, c'est évidemment que non, c'est évident, je veux dire, le Cray 2 c'est quand même...
C'était du temps où les ressources machines étaient extrêmement chères. Moi, je me rappelle dans mon jeune temps, quand il était question de faire tourner des calculs comme ça sur les grosses babas, et ça coûtait une fortune. Il fallait que tu passes ton batch à une heure pas possible et tout. Ça, c'était énorme, quoi. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu rigoler.
C'est vrai. Et vous savez aussi, ce qui vous fait rigoler, c'est les t-shirts de No Watch. Et oui, parce que vous le savez, No Watch est également producteur de t-shirts. Oui, enfin bon, bref, on a une boutique sur Spreadshirt, quoi. Et la boutique No Watch est notre deuxième sponsor. Vous avez vu cette transition quand même extrêmement habile. si vous voulez soutenir nos podcasts et vous faire plaisir en même temps, vous pouvez aller sur la boutique No Watch. Vous y trouverez énormément de designs différents sur énormément de podcasts différents, qu'ils soient de No Watch FM, No Watch TV ou même The Lab. Il y a Season 1, Will & Co, Upload... Le rendez-vous tech n'y est pas d'ailleurs, il faudra peut-être corriger ça. Et vous pouvez y aller faire des cadeaux à vos amis, à votre femme, à vos enfants, il y a des trucs pour les bébés, tout ça. Énormément de designs différents, des articles d'une solidité et d'une résistance à toute épreuve. Et vous pourrez donc, comme je le disais, en même temps vous faire plaisir et en même temps nous envoyer quelques sous. C'est un moyen pour nous aider si vous souhaitez le faire. Et ça nous fait à la fois plaisir et... ça nous aide, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ne serait-ce que pour voir ce qu'on propose. Hein. Ça se trouve, ça vous plaira pas, vous direz « Non mais les gars, ils font les trucs n'importe comment, leurs t-shirts sont ignobles. » Mais vous aurez regardé et déjà ça fait plaisir. Donc vous allez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière de la boutique ou sur le lien qui est dans la barre de liens, bien nommé, et vous allez voir tout ça. Merci à vous, merci à la boutique No Watch de nous sponsoriser. Enfin, merci à nous-mêmes de nous... sponsoriser quoi. En fait.
D'ailleurs Patrick, je pense que tu pourrais mettre un t-shirt No Watch quand tu plugs No Watch, parce que ce serait No Watch au carré.
C'est vrai, j'ai jamais de t-shirt No Watch quand je suis sur la... Bon, il va falloir que je corrige ça. Les gars de la chatroom, vous me verrez bientôt en t-shirt No Watch. Une dernière chose avant de nous quitter.
Excuse-moi, je vois une question pour moi dans la chatroom.
Oui.
Oui, j'ai un iPad 2.
Il a un iPad 2, oui, donc il n'est pas objectif. En fait, c'est depuis qu'il a su que c'était plus puissant qu'un Cray 2. Il s'est dit « Quoi ? Je le prends tout de suite. »
Exactement. Et encore la queue le matin, à partir de 7h à l'Apple Store à Palo Alto, pour les gens qui veulent acheter leur iPad 2 parce qu'on est encore en rupture de stock.
Oui, une rupture de stock qui serait due à des problèmes d'écran qui bavent, d'ailleurs, qui seraient déjà résolus, donc les livraisons devraient reprendre, normalement. Voilà, petite info en plus, en passant. Autre info en plus, je tiens à remercier les gens qui nous ont signalé, enfin qui m'ont signalé dans les commentaires et ailleurs, que dans certaines conditions, ils n'entendaient leur podcast que d'une oreille. Visiblement, il semblerait que c'est dû à un problème sur certaines machines Android qui ne lisaient pas l'encodage comme il fallait. Normalement, ça devrait être résolu. J'ai changé l'encodage des podcasts, ça devrait mieux aller. Et je tiens à remercier Clément qui m'a aidé à tester tout ça. Donc voilà, merci à ceux qui l'ont signalé. Merci à Clément qui m'a aidé à tester. J'espère que ça sera plus en mono d'une seule oreille. Si c'est encore le cas, ben, signalez-le moi. Et bon, enfin, si c'est encore le cas pour vous, signalez-le moi. On essaiera de corriger ça encore une fois. Et écoutez, on arrive à la conclusion de l'émission. Et hélas, Guillaume ne nous a pas envoyé de Satosphère, il était un petit peu occupé aujourd'hui. Donc on va compenser en demandant à mes co-animateurs merveilleux de nous dire où on peut les rejoindre sur l'internet du cybernaute quand ils ne sont pas dans notre émission.
Mais écoutez, pour moi ça n'a pas changé, c'est toujours twitter.com/yanalet.
Parfait, je suis d'ailleurs passé sur ton site aujourd'hui pour voir où tu en étais. Et je constate avec amertume que tu ne l'as pas mis à jour depuis bien longtemps. Enfin, remarque, je dis ça, attends. Depuis quand j'ai pas mis à jour le mien ? Merde. J'ai peut-être dit une connerie.
Effectivement, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Je suis en train de préparer un nouvel article. Mais voilà, quoi. En fait, tu sais comment c'est. Hein. Des fois, tu es à fond dedans et puis après, tu as plein de trucs qui te tombent dessus. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas mentionné, puisque... Quand je sentirai qu'il y aura de nouvelles actualités sur mon site, je le mentionnerai dans le rendez-vous tech. Mais en ce moment, c'est plutôt mon Twitter qui est actif.
D'accord. Jeff, qu'en est-il pour toi ? Ah, il a remis son micro en mute. Il a disparu.
Oui, tu vois comme quoi. Hein. pour moi, ce sera simple. C'est 4 lettres, J-E-F-F, Jeff, sur Twitter.com. Et en exclusivité, je vous le dis, je serai à Montréal chez Yann au mois de juillet, parce que je suis un keynote du Startup Festival, donc on pourra se voir.
Ah bah ça sera génial ça.
Je suis jaloux, mais attends, en fait, chez Yann, ça veut dire que tu vas aller dormir chez lui, il est pas au courant en fait.
Non, je vais aller dans la ville de Montréal, je n'ai pas besoin, je pense, de squatter chez Yann, je n'en sais rien, remarque, c'est une bonne question.
Non, mais tu iras pour le plaisir.
Eh ben écoute, ce sera... Enfin, en juin, je déménage. Bah écoute, ça tombe bien. Je déménage, donc j'ai besoin de personne pour m'aider à déménager les meubles, ça tombe bien.
Donc, ouais, mais je comprends, je serai sur scène, donc... mais peut-être qu'il y aura plein de monde qui pourra venir t'aider. C'est un gros festival, d'après ce que j'ai compris.
Bon, on va continuer cette discussion offline. Je vais terminer en disant que si vous voulez nous laisser un commentaire sur le site, évidemment, c'est toujours le bienvenu, mais également sur iTunes. Il ne faut pas oublier iTunes, puisque quand vous nous laissez une note et ou un commentaire... Ça nous aide à remonter dans les classements et forcément, ça aide d'autres personnes à découvrir notre podcast. Si vous l'appréciez, surtout, 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 n'hésitez pas à prendre 20 secondes pour aller sur iTunes et nous laisser une note. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site nowatch.net pour découvrir énormément de podcasts qui pourront certainement vous plaire. Je vous parlais à l'instant du podcast, de séries télé. Eh bien, Season 1 est une émission qui vous plaira peut-être puisqu'on y parle énormément de séries télé. Je parle beaucoup de Season 1 ces derniers temps. Donc, je vais également parler d'une émission de The Lab qui est Games in the Pocket, qui est une émission mi-vidéo, mi-audio, vous comprendrez quand vous irez voir, qui vous parle de... jeux sur les plateformes mobiles. Donc, si vous en avez marre de Sony et que vous voulez jouer sur votre iPhone ou votre iPad, vous pouvez aller voir là-bas et vous trouverez peut-être des jeux qui vous plaisent. Bah écoutez, ça va être tout pour cette émission. Je remercie chaleureusement la chatroom d'être restée avec nous. Je remercie également chaleureusement Jeff et Yann. Et pour ma part, on se retrouve sur Twitter, c'est @notpatrick. Et on se retrouve également dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ciao, ciao.
À bientôt.
Au revoir.